Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, lors du premier dimanche de Carême, le prédicateur a fait tourner nos regards vers le modèle par excellence que nous devons imiter pour passer un bon Carême, notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus spécialement, ses 40 jours passés au désert. Mais le Nouveau Testament est préfiguré, annoncé par l'Ancien Testament. Aussi est-il utile de s'y pencher pour voir s'il n'y aurait pas quelques figures de notre carême chrétien et quelles leçons cela nous apporte. Comment choisir ? La liturgie sera notre guide. Lors du deuxième dimanche de carême, nous avons vu dans l'Évangile Moïse et Élie apparaître à la droite et à la gauche de notre Seigneur. Et dans la vie de ces deux grands prophètes, il y a un épisode de 40 jours, assez semblable à bien des points de vue et bien éclairant sur notre sujet. Il s'agit pour l'un comme pour l'autre prophète d'une période préparatoire à une manifestation divine d'une importance toute particulière. Si vous le voulez bien, rentrons dans les détails. D'abord, l'un et l'autre fuient la colère d'un puissant de cette terre, adorateur de Satan, qui cherche à le tuer. Pour Moïse, c'est Pharaon. Pour Élie, c'est Jézabel, l'épouse païenne du faible roi d'Israël, Achab. L'un et l'autre doivent passer par le désert pour atteindre la montagne du Sinaï où Dieu a promis de se manifester. L'un et l'autre doivent tout quitter, tout abandonner, être dans la plus absolue solitude. Élie renverra son serviteur à l'entrée du désert et demeurera seul. Moïse, quant à lui, demandera à Josué de l'attendre avant de s'enfoncer seul dans la nuée qui couvre le haut du mont Sinaï. L'un et l'autre sont nourris d'un pain miraculeux dans le désert. Pour Moïse, c'est la manne, que le livre de la sagesse désigne comme étant le pain des anges. Pour Élie, c'est un petit pain cuit sous la cendre qu'un ange, encore, vient lui apporter. Les deux doivent subir un jeûne rigoureux de 40 jours, sans boire ni manger, prolongeant leur prière dans le silence de la solitude. C'est en haut de la même montagne, le Sinaï, que Dieu se découvre à eux. Enfin, après avoir été consolés l'un et l'autre par cette manifestation divine, nos deux prophètes sont renvoyés pour combattre l'idolâtrie et guider le peuple élu. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Épître, toutes ces choses ont un sens allégorique. Et saint Paul dira dans l'Épître aux Romains, « Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. » Tâchons donc maintenant de soulever le voile de l'allégorie pour nous en appliquer les grandes leçons comme nous y invite l'apôtre. Poursuivis par la colère des puissants de cette terre, les deux hommes de Dieu ne cherchent de secours qu'en Dieu. Ils fuient alors le monde et ses faux plaisirs pour se recentrer sur l'essentiel, Dieu. Rechercher Dieu, voir Dieu. Bernardé, ad quid venisti ? Bernard, pourquoi es-tu venu ? Se demandait souvent saint Bernard dans son monastère. Oui, pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi sommes-nous en vie ? Le carême, bien cher fidèle, n'est pas un temps où l'on perd des kilos parce qu'on a ôté quelques suppléments à nos repas. Non. Le carême, c'est un temps de pénitence ? Oui, certes. Rappelons-nous le jeûne intégral de Moïse et d'Élie pendant 40 jours. Mais cela n'est qu'un moyen, pas une fin. une maman qui attendrait un petit bébé ne serait pas tenue de jeûner. Par exemple, la pénitence n'est qu'un moyen qui nous permet plus facilement d'atteindre ce pourquoi Dieu nous a créés, contempler Dieu, l'aimer. Alors pour cela, nous devons nous aussi, comme nos deux prophètes, d'abord fuir le monde, l'esprit du monde. Tenez, un bon thermomètre pour savoir à quel degré nous sommes atteints par l'esprit du monde, ce sera la joie de Pâques. Cette joie sera-t-elle pour nous essentiellement fondée, basée sur les œufs en chocolat, le repas de Pâques, ou bien sur les grâces spirituelles gagnées par notre Seigneur et qu'il déverse à flot en ce jour-là? Fuir le monde, soit, mais pour où? Le désert. Le désert, c'est-à-dire le silence, la solitude, autant que le permet notre devoir d'État. Il est évident que ce silence n'est pas exigé de la même manière pour un chartreux que pour une mère de famille nombreuse. Mais aux chartreux, comme à des parents chrétiens, comme à des étudiants, notre Seigneur dit « Fais ce que tu peux et je ferai le reste ». Commençons déjà par faire ce que nous pouvons. Commençons déjà par bien nous recueillir dans nos prières, avant nos prières. Chers parents, permettez ce petit rappel des trois silences. Avant de même de faire le signe de croix, on commence par se recueillir. On fait le silence du corps, le silence des yeux et bien sûr le silence des lèvres. Et puis faisons une chasse impitoyable à tout ce qui viendrait nuire au silence intérieur, le plus important somme toute. Internet, les réseaux sociaux, les courriels et tous les autres tentacules du monde moderne, chers messieurs, autant que faire se peut. Bien souvent, sous de faux prétextes, cela va tuer notre vie spirituelle et intérieure. Certains bavardages, sans fin ni fruit, chère maman, sur le parking ou au téléphone, etc., etc. Ceci, oui, c'est le travail qui nous appartient. Et Dieu fera le reste, à proportion de nos efforts et de notre générosité. Mais le désert, la solitude, le jeûne, étant de nature à faire reculer plus d'un d'entre nous, notre Dieu si bon va venir en aide à notre faiblesse en nous nourrissant, nous aussi, comme ses prophètes, d'un pain angélique, l'Eucharistie. Car les pères de l'Église s'accordent pour voir dans la manne, aussi bien que dans le petit pain d'Élie, une figure de la Sainte Hostie. Et la différence d'ailleurs qui existe entre les deux est fort instructive au sujet de la Sainte Communion. Prenons Élie. Le petit pain cuit sous la cendre est une nourriture commune, sans grands attraits. Un peu comme les pains que Jésus a multipliés tout à l'heure dans l'Évangile. Et les pères de l'Église, d'ailleurs, s'accordent à voir aussi dans cette multiplication une figure de la Sainte Eucharistie. Je ne sais si vous avez fait attention tout à l'heure à ce petit détail. Il ne s'agissait, somme toute, que de pain d'orge. Pas de pain au chocolat, pas de pain au lait. Du simple pain d'orge. N'attendons pas, du moins de manière habituelle, ordinaire, de grands effets sensibles, de grandes consolations dans la communion. Nous n'allons pas brutalement grandir en sainteté après une communion. Chers parents, avez-vous jamais vu un de vos enfants prendre 10 cm après un repas? Non, bien sûr. Mais heureusement que vous les nourrissez tous les jours. D'autre part, nous voyons pour Moïse qu'il est dit dans le livre de la Sagesse que la manne était une nourriture délicieuse. On pourrait croire que c'est en contradiction. Pas du tout. Car le livre de la Sagesse précise « Cette nourriture délicieuse qui se plie à tous les goûts eh bien, si elle va leur devenir insipide, c'est à cause du manque de foi, du manque de gratitude des Hébreux. Manque de gratitude engendré par l'habitude. Et là encore, c'est une grande leçon pour nous. Car si l'Eucharistie ne produit pas en nous tous ses fruits, y compris la joie spirituelle, eh bien c'est par notre manque de foi, engendré surtout par la routine, l'habitude. Alors, eh bien, profitons de ce carême pour justement secouer notre torpeur, sortir de la routine, nous dégager de l'habitude. Pourquoi ne pas faire un effort pour essayer d'assister davantage à la messe durant ce carême ? Chère maman, vous avez une messe spécialement pour vous le vendredi. La messe est aussi célébrée à des horaires différents le samedi. Et le dimanche, outre la messe, faisons un effort pour essayer d'aller au salut du Saint-Sacrement. Mais si notre devoir d'État nous en empêche, ne nous le permet pas, eh bien, chers parents, n'hésitez pas. Lorsque vous amenez vos enfants le matin à l'école, venez à l'église, ouvrez votre missel, lisez les textes de la messe et faites une bonne communion spirituelle. Surtout, profitons de ce carême pour raviver notre désir de Jésus hostie. Rappelons-nous que les grâces de la Sainte Eucharistie sont en adéquation, en exacte proportion à notre faim, à notre désir de Jésus hostie. Il nous reste à voir un détail qui a son importance. Nous avons vu qu'Élie se sépare de son serviteur, Moïse, de Josué. Quelle application spirituelle ? Elle est très importante. Il est impressionnant de voir, lorsque nous lisons et relisons l'Évangile, que notre Seigneur Jésus-Christ revient sans cesse, sans se lasser, sur une vérité. Est-ce sur le danger de l'impureté ? Non. Est-ce sur le danger de la paresse ou de la gourmandise ? Non plus. Mais notre Seigneur revient sans arrêt, avec à chaque fois plus de force, sur le danger que fait courir à notre vie spirituelle et à notre salut l'attachement au bien de cette terre. Et il faut noter que ce n'est pas uniquement par rapport aux richesses. Un jour, Sainte Gemma Galgani parle avec notre Seigneur. Elle avait des apparitions fréquentes avec Jésus et elle lui parlait très simplement. « Jésus, lui dit-elle, je ne comprends pas. Mon directeur spirituel, mon confesseur, me dit qu'il faut être détaché absolument de tout. Mais je ne suis attaché à rien. » Et Jésus regarde Gemma. « Gemma, et les reliques que tu portes sur toi ?» Et Sainte Gemma de se récrier, « Mais Seigneur, ce sont des reliques, ce sont de très précieuses reliques !» Et Jésus de lui répondre, « Ma fille, je le veux, cela suffit. Même à des reliques, on peut s'attacher. » Saint Jean de la Croix marchait avec un de ses frères pour rejoindre un de ses monastères. Il s'arrête à midi, allume un feu pour le repas, et soudain, Saint Jean de la Croix se retourne vers son frère. Finalement, je ne suis plus attaché qu'à une seule chose sur cette terre. Alors le frère, qui connaissait bien Jean de la Croix, son éminente sainteté, le regarde avec un peu d'étonnement. Et Saint Jean de la Croix va mettre la main à l'intérieur de sa poitrine et en sortir des lettres. Et il les montre à son frère. Ce sont des lettres de la Madre, c'est-à-dire des lettres de Sainte Thérèse d'Avila, qu'elle lui avait écrites personnellement. Et regardant son frère, il les jette dans le feu. Un oiseau, dira-t-il, si il est attaché par une grosse chaîne ou un petit fil, de toute façon, il ne peut pas s'envoler. Alors, profitons du carême pour nous recentrer sur le but de notre vie. Ce n'est pas la pénitence, non. L'essentiel, c'est Dieu, voir Dieu. Et voyons si nous n'avons pas, nous aussi, un fil à la patte qui nous empêcherait de nous envoler. Alors, si nous sommes généreux à fuir le monde, à couper avec tout ce qui nous attache à la terre, à faire effort pour imposer le silence aussi bien à nos lèvres qu'à l'intérieur de nous, si, nourris de la Sainte Hostie, nous nous enfonçons résolument dans un certain désert, fait de pénitence et de solitude, les yeux fixés vers la montagne de la perfection, alors oui, Dieu se manifestera à nous pour nous consoler. Il l'a promis, c'est infaillible. Simplement, il faut prendre les moyens pour atteindre le but. Si nous nous arrêtons au milieu du désert et que nous rebroussons chemin, si après avoir traversé le désert, nous restons en bas de la montagne, si nous voulons monter en haut de la montagne, mais pas tout seul, avec quelque chose qui nous est cher, alors Dieu ne se manifestera pas. Mais si nous sommes généreux, si nous nous laissons purifier par le bon Dieu, oui, il se manifestera à nous. Et comme les deux prophètes, réconfortés par cette manifestation divine, nous pourrons retourner vers ceux qui nous sont confiés pour les guider vers Dieu et lutter contre les puissances de cette terre. Et regardez, de Pharaon ou de Moïse, qui a vaincu ? De Jézabel ou d'Élie, qui est sorti vainqueur ? Alors, en ce temps où les princes de cette terre font tout pour fermer nos écoles, anéantir tout ce qui pourrait rester de l'œuvre du Christ, comprenons vraiment ce qu'est un carême chrétien et soyons généreux. Alors, nous entendrons peut-être Dieu nous dire, comme à Élie, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Et c'est avec ces 7000 hommes qu'il a sauvé le peuple élu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.